Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous tenir compagnie pendant cette semaine. Nous nous retrouvons avec vous dans Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. Nous ouvrons la semaine avec la lutte contre la corruption. Nous en parlons parce que dans son dernier rapport publié le mardi 26 octobre dernier à Berlin en Allemagne, l'ONG Transparency International classe la RDC parmi les pays les plus corrompus en occupant la 164e place sur près des 178 pays. L'ONG indique que près du 3/4 des États sont gravement corrompus. La RDC partage ses tristes records avec d'autres pays de la planète. Selon sur le plan intérieur et au lendemain de la publication de ces rapports, un document portant la stratégie nationale de lutte contre la corruption a été remis au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Adolphe Lumanu. Ce document a été élaboré par des experts congolais et sud-africains en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et la criminalité. Cette stratégie nationale vient en appui aux instances nationales de la RDC afin d'élaborer des lois et des structures capables d'aider le gouvernement à lutter efficacement contre la corruption. Comment réagissez-vous face à ces rapports et que proposez-vous pour lutter efficacement contre la corruption? Nous en parlons avec vous, auditeurs de Radio Capi. Et d'un moment à l'autre, nous allons recevoir dans ce studio M. Charles Mouindambali, coordonnateur du comité de pilotage pour le suivi de la mise en application du code de la lutte contre la corruption. Cynthia Bachizi est à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ndaka et Willem Lungamba est à la mise en onde. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous. Nous parlons corruption. Selon l'indice des perceptions de la corruption IPC 2010, ces pays sont évalués en fonction de la perception du niveau de corruption affectant leur administration publique et classe politique. L'indice est établi grâce à des sondages réalisés auprès d'hommes d'affaires et des spécialistes. L'administration publique est intéressée dans la passation des marchés, la facilitation des investissements, la fiscalité ainsi que les systèmes judiciaires. Nous en parlons avec vous comme Hubert qui est à Bukavu, qui est en ligne à Adrien Takananga. Hubert, on commence avec vous. Bonjour. Hubert, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs des années passées.
Voilà, Hubert, comment réagissez-vous face à ces rapports de l'ONG Transparency International sur la RDC classée parmi les pays les plus corrompus?
Bon, ma réaction à propos de ces rapports, c'est qu'on ne sait pas vraiment mesurer quel est le pays qui est le plus corrompu, mais toutefois, je sais que qui aime bien, choisit bien. Et quand on dit que le pays est corrompu, pour mettre fin à cette corruption, il faudra que l'autorité prenne des précautions ou bien des mesures. Si le transfert, en cela, en arrêtant et confisquant les biens qui ne sont pas justifiés par qui que ce soit qui est désigné comme étant corrompu, mais aussi le corrupteur.
Apparemment, Hubert, on a des problèmes de ligne avec vous à Bukavu. Si pour vous répéter, permettre aux autres auditeurs de comprendre, vous avez dit que vous pensez que le problème, ce sont des mesures que les autorités doivent prendre pour punir, confisquer les biens des gens qui sont accusés de corruption. Je crois que c'est ça votre idée.
Oui, c'est ça mon idée. C'est-à-dire que il faudra que, par exemple, quand on dit que tel ou tel autre responsable d'un service de l'État, qui, au lieu de canaliser les recettes de l'État dans la caisse de l'État, les dilapides, une commission de sanctions fasse
Voilà, Adrien,
que cette commission cherche à savoir comment il s'est enrichi et tout ce qui n'est pas tout ce qu'il a et qui ne convient pas avec sa capacité de, d'achat ou de donc ça serait bien quand ça serait bien à l'État.
Voilà. Oui, merci Hubert. Apparemment, la ligne de téléphone pose problème avec Bukavu, mais on vous a suivi. Votre souci, c'est qu'il faut qu'il y ait des commissions, qu'on l'instaure. Ces commissions doivent travailler pour répertorier les biens, par exemple, de quelqu'un qui est accusé de corruption au niveau des services publics, par exemple, voir tous les biens qu'il a acquis qui ne correspondent pas avec son salaire ou ses avoirs, et saisir tous ces biens pour l'intérêt de l'État. Merci Hubert. Vous êtes à Bukavu. C'est dans la province du Sud Kivu. Nous allons au centre du pays. Adrien est à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Belgique.
Voilà Adrien, on vous écoute.
Oui, Pierrot, je pense que j'applaudis de deux mains le rapport donc tombé par cette organisation-là, parce que lorsque nous prenons notre pays, nous rendons compte que la corruption est généralisée. C'est vraiment sur tout le plan. Ce qui est grave, Pierrot, est que même les instances censées combattre donc la corruption, et ces instances-là se laissent faire et se laissent aussi corrompre. C'est ce qui est très grave. Et moi, je me demandais comment est-ce que la République démocratique du Congo, en ce qui concerne les choses sérieuses, est le plus plaqué. Mais en ce qui concerne les antivaleurs, nous occupons toujours donc une place prépondérante là. C'est un peu dommage et ça fait honte. Je vous donne deux exemples. L'office de biens mal acquis, ça a été bien répertorié. On s'est rendu compte que ce bien-là, c'est comme le terme l'indique même. Et c'est, donc les intéressés ne sont pas inquiétés. Ils sont calmes, ils tranquilles, ils vous circulent même, et ils vous donnent des idées là très bonnes, et ils sont aux affaires même. Et deuxièmement, il y a le fameux rapport Lutundula. Mais ce rapport-là a tout donné. Le rapport a bien identifié même les responsables. Mais aujourd'hui, donc, quelle est la suite de ce rapport-là? Mais c'est gêné tout simplement par ceux-là et qui pouvaient quand même combattre cette corruption. C'est pour vous dire en un mot que ce rapport-là, c'est un rapport qui est vraiment correct par rapport à ce que nous vivons dans notre société. Et c'est tout simplement lorsque vous finissez vos études, lorsque vous menez pas de démarches, ça et là, je ne vais pas citer des instances. Mais Pierrot, c'est vraiment un scandale. Mmh. On vous exige des sommes d'argent, des dollars, avant qu'on puisse vous engager.
Voilà, oui, Adrien, vous parlez de rapport, vous parlez de l'office des mal acquis. Et si on peut bien vous comprendre, ici, votre souci, c'est accuser qu'il n'y a pas une volonté politique qui peut aider à combattre la corruption, c'est ça. Mais au niveau, par exemple, de vous, vous n'êtes pas aux affaires, bon, bien sûr, entre guillemets, comme un responsable politique, mais au niveau de la société, au niveau de là où vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette corruption, s'il ne faudrait pas seulement qu'on regarde à ceux qui sont élevés en dignité et chacun dans ses responsabilités. Qu'est-ce que vous pouvez proposer?
Oui, Pierre, moi j'ai toujours dit que pour anéantir la corruption, ce n'est pas au niveau de la base qu'il faut commencer à anéantir, non. Il faut que la corruption commence, donc qu'on commence à combattre cette corruption-là au niveau du sommet. Parce que lorsque on verra le grand poisson, entre parenthèses, comme les gens aiment le dire, le grand poisson être sanctionné, et moi je pense que ça va influencer même le plus peuple qui sont, donc qui se trouveraient quelque part ou bien au village, et va se dire tout simplement que non, voilà, tel monsieur a été puni, a été sanctionné parce qu'il avait trempé sa main quelque part, et moi si je sais, vraiment je peux mourir en prison. Voilà ce que moi je dis, parce que si nous disons que la corruption peut être combattue à partir de la base, vraiment ce sera un discours de trop.
Merci beaucoup Adrien, vous êtes à Kananga où vous nous suivez, je crois bien, c'est sur 83.0 MHz. Votre proposition, c'est qu'il faut combattre la corruption à partir du sommet, c'est-à-dire que les grands responsables, quand ils sont punis, ça pourra permettre aux autres peuples de suivre l'exemple. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kananga au Kasaï occidental.
Je vous en prie, Pierre.
Parole aux auditeurs.
Nous avons deux auditeurs qui nous appellent de Mbandaka dans la province de l'Équateur, Benoît et Eric. On commence avec vous, Benoît. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Benoît, nous parlons de ces rapports, mais si nous allons rester longtemps sur les rapports, il a déjà indiqué que l'indice de la corruption, le point, c'est pour ça que pour la RDC, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour améliorer encore. On parle des climats des affaires, on parle des services publics, on parle de la justice, on parle de tous ces problèmes. Et vous êtes à l'Équateur, comme tout le monde peut s'alarmer de ces rapports, mais au-delà de pleurs, au-delà des grincements des dents, il faudrait quand même qu'on puisse s'engager qu'on puisse proposer, qu'on ait des propositions concrètes qui peuvent nous permettre d'avancer sur ces sujets de lutte contre la corruption. Alors, Benoît, qu'est-ce qui peut être facile, efficace qu'on peut faire aujourd'hui pour que la RDC se retrouve quand même sur une bonne place dans les matières comme la corruption?
Oui, M. Thérault, hein, apparemment, nous n'avons plus de solution. Nous n'avons plus de solution parce que nos députés se plaignent de la corruption. Si nous les avons votés, nous les avons envoyés au Parlement. Ils sont même incapables. Un choc grave. Ceux qui sont allés là, nous les avons votés, non pas pour l'ANP, c'est pour soutenir les peuples. Mais ils sont allés là soutenir les régimes. Or, les régimes, avec nous, ça ne va pas, nous ne voyons rien. Donc, moi, pour comme solution, envoyer des gens, hein, envoyer, écoutez, que le gouvernement envoie des stagiaires au Kenya, qu'ils aillent voir ce que le Kenya fait. Et dernièrement, ils ont arrêté le maire de la ville, le ministre des Affaires étrangères, je crois, il a démissionné, et ils ont pris tout le monde, hein, dans les sacs, mais là, il y a des enquêtes qui se tenaient. Si les rapports, vous parlez de magistrats, si les magistrats sont déjà corrompus, hein, donc, moi, je pense que la solution, nous l'attendons pour les élections, parce que nous savons que les députés ne peuvent pas tomber, les gouvernements ne peuvent pas tomber, les gouvernements, nous attendons que les élections viennent vite, comme ça nous allons corriger cette histoire une fois pour toutes.
Voilà. Ben non, mais vous pensez que les personnes qui seront élues d'ici une année, celles que vous allez élire, vous pensez qu'eux, ils vont combattre la corruption? Est-ce que c'est un problème de changer d'homme ou bien c'est un problème de changement de système, de changement de mentalité des gens? Est-ce que c'est un problème tout simplement d'échanger quelqu'un parce que vous allez peut-être élire quelqu'un demain, mais si la personne elle-même est déjà dans le même système de lutte contre de soutenir la corruption, vous pensez que cela va amener un changement ou c'est un problème au niveau de système, de pensée, de mentalité?
Non, c'est pas un problème d'homme, parce qu'avec nos décadis là, nous avions vu l'évolution, la corruption était pratiquement là où il a passé, la corruption était presque éradiquée, c'est un problème d'homme.
Voilà. Merci Benoît, c'est un problème d'homme, vous pensez qu'avec les hommes que nous avons actuellement, que vous avez élus, ils ne peuvent pas vous aider à combattre la corruption, il faudrait élire d'autres personnes. Merci, vous êtes en Mbandaka, nous restons dans la ville de Mbandaka avec Eric. Eric, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi votre compatriote Benoît qui pense que c'est un problème d'homme, qu'il faudrait élire de nouvelles personnes en 2011. Cela va aider à combattre la corruption. Et vous, quel est votre point de vue, Eric?
Je voulais appeler d'abord Eric, je ne suis pas un mandataire, je suis à
Kikuit. Ah, Eric, vous êtes à Kikuit, oui, c'est bien, vous êtes à Kikuit, là où les auditeurs nous suivent, je crois bien sûr, 5.7 millions.
Pour moi, je pense maintenant que pour combattre la corruption, l'autorité doit d'abord faire ça avec des slogans tels que tolérance zéro. On a fait du sérieux dans tout ça. Il y a des choses très sérieuses qu'il faut faire. Il y a d'abord la réforme du système judiciaire, qui peut réellement réformer et structurer. Il y a aussi au niveau de la police, il faut mettre du sérieux là-bas. La corruption, il voit trop la base, il voit trop la relation, mais la corruption c'est au sommet. Quand je dis le sommet, c'est pas seulement au niveau du gouvernement. Il y a au niveau de l'autorité judiciaire, au niveau du Parlement. Les députés ne font pas d'histoire quand ils font le contrôle par les matériels, ils ne contrôlent pas sérieusement les entreprises. Voilà. C'est tout ça qui fait baisser le niveau de notre pays. Même voilà le niveau économique. C'est comme un nombre très bas parce que ceux qui sont censés nous diriger, ceux qui sont censés mettre. Je vais donner un exemple. fond du mot, c'est quoi?
Merci, Rick. Votre souci, c'est la réforme du système judiciaire, c'est la réforme des services de sécurité, par exemple, comme la police. Vous pensez qu'il faut mettre du sérieux dans cela, au lieu d'éviter le slogan. On termine cette série avec Cindy de Kinshasa. Je vous signale à nos auditeurs que notre invité, M. Mouindambali, a déjà fait son entrée dans ce studio. On va lui donner la parole tout de suite. Cindy, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Radio
Café. Voilà, nous vous avons parlé depuis le début de cette émission de ces rapports publiés le 26 octobre dernier par l'ONG Transparency International qui classe la RDC 164e pays sur les plans de la corruption. Mais notre problème et notre souci dans ces émissions, c'est de dégager les pistes et solutions et surtout les propositions concrètes qui peuvent aider à lutter efficacement contre la corruption et nous repositionner quand même au concert des nations. On vous écoute, Sengui.
Ok, voilà, je remercie de la réserve parce que avoir ce sujet. Alors, mais moi, je voulais proposer ceci. D'abord, notre pays a un problème sérieux où on se limite seulement à dénoncer plutôt les faits. On dit, par exemple, corruption, on a attrapé telle personne ou tel groupe de personnes qui ont été victimes du taux de la corruption, mais il n'y a pas de sanction pour ces personnes. Alors, c'est pourquoi la suite, c'est quoi? Il continue à nager dans la corruption. Puisqu'il n'y a pas de sanctions exemplaires. Et les autorités, et les banques se sont confondues dans ce système. C'est pourquoi il est difficile, à mon sens, de réfuter ce problème de corruption. Alors, les mesures qui seront prises nécessairement, c'est sanctionner, si comme les emprisonner ces gens, et qu'ils soient jugés et puis subir la rigueur de la loi. Aussi, le temps qu'on reste seulement au niveau de la dénonciation, par exemple, des rapports que nous louons aujourd'hui, c'est bien. Mais après, les suivis, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de cause. Donc, c'est ce qui fait assez que tous les pays, nous sommes encore très loin. Et c'est que moi, je m'attendais qu'on pouvait être préféré dans les 10 premiers pays. Hein? C'est vrai, nous sommes quand même plus loin, mais ce que nous devons faire, c'est question de mentalité aussi. Aussi, l'État doit régulariser les salaires. Par exemple, si quelqu'un qui travaille, c'est qu'il a un salaire digne de ce nom-là, c'est quoi? Et il ne sera pas tenté de faire la corruption. Et s'il tombe dans le piège de la corruption, alors qu'il a son salaire, il doit subir une sanction exemplaire. C'est ce que moi je propose. Donc,
merci.
On doit d'abord payer les gens convenablement et puis mettre maintenant des sanctions suffisantes pour des personnes qui vont tomber dans la chaîne de la police.
Merci, Tengui. Vous parlez de l'impunité, la lutte contre l'impunité, le changement des mentalités et l'amélioration des conditions de vie de personnes pour éviter qu'ils tombent dans la corruption. Merci.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Voilà, monsieur Mounabali, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue au studio de Radio Capi.
Je vous en remercie.
Nous parlons de la corruption, mais avant, je voudrais bien vous présenter pour les auditeurs. Je crois bien que vous êtes les coordinateurs du comité de pilotage pour les suivis de la mise en application du code de la lutte contre la corruption, c'est ça?
C'est correct.
Voilà, et il n'y a pas longtemps, le 20 octobre, l'ONG Transparency International a publié son rapport qui nous classe, bien sûr, parmi les pays les plus corrompus, 164e sur près des 178 pays. Vous qui pilotez les comités qui touchent à la corruption, quand vous êtes en face d'un tel rapport, quelle est votre réaction?
Bon, il est vrai que ma réaction n'est pas celle d'un satisfait, d'autant plus que la place qu'occupe la RDC ne peut pas du tout honorer son image par rapport aux pays le moins corrompus de la planète. Néanmoins, il conviendra peut-être de remonter les résultats de Transparency International. Nous avons suivi les études de Transparency pendant 5 ans. Au début, la RDC s'est présentée avec la note de 1.7, c'était vers 2002. 113e sur X nombre de pays classés. Je vous montrerai l'importance des classements par rapport à la note, ou la note par rapport au classement. Une année après, la RDC faisait 2.2 et puis 2.3 à l'occasion de la publication du code de conduite de l'agent public de l'État. Avec l'arrivée de l'équipe du gouvernement de transition de Sun City, nous avons fait un bond, une chute, et nous avons quitté les 2.3 pour retrouver 2.1 seulement. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, la RDC ne faisait que régresser. De 2 points, nous sommes passés à 1.7 et pour le moment, nous sommes en train de remonter la pente. Nous quittons les 1.7 sur 10 des indices de coefficient de perception de la corruption. C'est le calcul que fait la Transparence internationale. Et nous évoluons de 1.7. Nous avons retrouvé, nous avons gagné 0.2 pour faire 1.9 l'année passée. Et cette année-ci, la RDC vient de franchir la limite de 2 points. C'est pour vous dire qu'il y a un retournement de la situation, que la RDC est en train de s'affirmer comme un pays véritablement engagé dans les processus de lutte contre la corruption. Et c'est là, comme indicateur, qui ont permis cette évolution, il faut citer l'opération Tolérance Zéro, lancée par le chef de l'État, vous en connaissez les conséquences, on a arrêté des personnalités, on a révoqué. Il y a aussi la convocation du Forum national sur la lutte contre la corruption qui a eu lieu le 26 novembre par décret du Premier ministre sous l'impulsion du chef de l'État. Et il y a enfin plusieurs réunions. La réunion des experts qui avait eu à travailler sur les grandes lignes de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il y a eu la table ronde des experts et voici que Transparency International publie résultat de 2010 et la publication coïncidait avec les jours où la République démocratique du Congo présentait son document de stratégie nationale de lutte contre la corruption qui était déposé entre les mains du gouvernement. Donc je dirais qu'il y a eu une avancée. Nous avons gagné 1.25, c'est déjà par rapport au baromètre de Transparency International qui est très très significatif parce que c'est un baromètre très sensible. Alors, à ce qui concerne les places, les gens vont se dire, pourquoi la RDC est à la 164e place alors que l'année passée, elle occupait la 162e place. Au niveau de ces classements, le place importe peu puisqu'on peut faire un bond en avant mais en régressant par rapport au classement. Tout dépend des nombres de pays qui ont été sélectionnés. Donc c'est pour apaiser un peu les gens qui vont arriver à nos guitares à la 164e place pour les pays qui s'est régressé.
Et maintenant, les auditeurs qu'on a eus depuis le début de cette émission, ils sont très inquiets parce que pour eux, ils voudraient voir les signaux forts, hein, parce que l'opération Tolérance Zéro, autant de forums convoqués, la dénonciation même comme venait de le dire Eric, autant de rapports, mais au niveau des actions concrètes sur terrain, hein, c'est ce qui inquiète un peu les auditeurs, ils ne voient pas dans tous ces efforts quand même qu'il y a la lutte contre l'impunité, qu'il y a des arrestations, qu'il y a des procès qui se tiennent en termes de corruption, que cela se présente aux médias, par exemple, le public en parle. C'est plus, on dénonce, on dit qu'on a arrêté, demain, la personne qui est arrêtée, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'il y a eu un jugement, qu'est-ce qui se passe, et apparemment, cela risque de consolider la position des uns et des autres, croyant que non, c'est comme la routine, on va m'arrêter, on va dénoncer, mais enfin, il n'y aura rien, on va continuer, c'est un peu ça l'inquiétude des auditeurs par rapport aux actions concrètes sur le terrain.
Ces inquiétudes paraissent un peu fondées, messieurs les journalistes, mais je vous dirais que dans le document de stratégie nationale qui a été remis entre les mains du gouvernement depuis le mardi passé, dans ce document, il est prévu des mécanismes susceptibles de vérifier les indicateurs réellement objectifs de la lutte contre la corruption. Nous allons mettre en place, avec la proposition du gouvernement, je crois que cette proposition va passer, une cour spéciale anticorruption. Elle est prévue dans les documents de stratégie nationale. Il y aura des juridictions spécialisées en matière de corruption. D'avance, désormais, la corruption ne sera pas une matière traitée comme à l'ordinaire, relevant des infractions des droits communs. Mais la corruption monte maintenant des catégories, devient une matière qui nécessite vraiment un suivi attentif des organes spécialisés.
Voilà, avant qu'on prenne le M. Mathieu qui nous appelle de Kananga, mais elle est là. Il faut aussi qu'on disponibilise des moyens pour ces juridictions qui pourront être créées, parce que sinon, les mêmes juridictions risquent de tomber dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans la corruption elle-même.
Oui.
Et là, faudrait-il encore créer autre chose pour nous en sortir?
Bon, il est vrai que nous allons partir des juridictions, on ne va pas de la création en création, dès que les juridictions seront là, pilotées par un procureur spécial anticorruption ou par des juges formés à la matière de lutter contre la corruption, et ils seront fiers de pouvoir ouvrir dans un domaine où ils contrôlent tous leurs collègues en matière de pratique de corruption. Je vous dis, je vous rassure, c'est l'expérience au Burundi, Madagascar, Mali, qui ont des cours spéciaux anticorruption. Je crois que nous ferons un beau travail avec la petite autorité, avec les moyens dont vous avez parlé, parce que sans les moyens, il est vrai, et c'est le principe même en matière de lutte contre la corruption. La réussite d'une politique de lutte contre la corruption est tributaire des moyens qu'investit le gouvernement dans la lutte contre ce fléau, parce qu'il n'est pas facile de réunir les preuves. Ça doit toujours prendre un minimum de mois, un minimum de jours. Or, il faut vite, vite écourter les procédures de manière à ce que, quand les moyens sont disponibilisés, que nous puissions vite mettre main sur ces gens qui se livrent aux pratiques de corruption.
Et comment protéger, Mathieu, on va vous donner la parole à Augustin de Boutembo, mais comment protéger alors ces juridictions et toutes ces personnes contre les trafics d'influence, l'interférence des politiques dans tout cela? Parce qu'imaginez-vous que cette juridiction puisse juger un ministre, par exemple, qui dans sa puissance, qui a occasionné un marché public illicite. Imaginez-vous comment on peut protéger ces juridictions contre le trafic d'influence et l'influence de la politique.
Ces juridictions seront battues sur un cadre légal, institutionnel. Et quand je parle de cadre légal, je regarde des lois relatives à la lutte contre la corruption. Il y aura une loi qui sera promulguée, qui est proposée au gouvernement pour discussion, qui sera adoptée par le Parlement, et le président publiera la loi y relative. Alors, cette loi est appelée la loi sur la répression, sur la prévention et la répression des actes de corruption. Alors, dans cette loi, il y a tout un certain nombre de matières qui sont intégrées, notamment la protection du dénonciateur, la protection du témoin. Et tous ces aspects sont pris en compte, de manière à pouvoir sécuriser les gens qui vont collaborer à la détection des pratiques et des corruptions.
Voilà. Mathieu, vous êtes en ligne, auditeur, on va vous donner la parole tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, ici dans l'émission, nous dégageons les pistes de solutions comme vient de le faire M. Mouindambali. Vous avez suivi, mais vous aussi, parce que cela vous concerne, ça vous touche, dans votre vie de tous les jours. Quand on parle de la RDC, les gens ont tendance à croire qu'on parle des autorités politiques. La RDC, c'est toi et c'est moi, c'est nous tous qui sommes concernés par cette situation de la corruption. Alors Mathieu, qu'est-ce que vous proposez, vous êtes à Kananga, pour lutter efficacement contre la corruption?
Monsieur Pierrot, moi, d'abord, je vous félicite, je remercie la radio de m'avoir la parole. D'après moi, le Congo est un pays le plus corrompu du monde, monsieur le journaliste. La corruption est devenue comme un mode de gestion. Vous vous rappelez comme moi que dans les élections qui s'est déroulée en 2006, tous ceux qui étaient vous, tous les gens qu'on avait voté, à partir de bas jusqu'en haut, donc, avaient corrompu la population. C'était à l'ennemi. Il y avait personne qui avait refusé de cela. Dans des pays qui se respectent, monsieur le journaliste, on ne peut jamais faire cela comme ce qui s'est passé dans notre pays démocratique du Congo. Bon, dans tous les services de l'État, il y a toujours des corruptions. C'est un ennemi, tout le monde est en train de le voir.
Oui, monsieur, ça c'est vrai, nous tous nous le voyons, vous le voyez aussi. Mais dis-moi, vous avez quand même une piste de solution pour qu'on puisse mettre
en place. La solution pour moi, c'est d'attendre les élections prochaines afin de changer le régime. La mentalité n'est en aucun cas changée dans la manière où le système est devenu comme une maladie dans le cœur des gens.
Mais, voilà, merci Mathieu, mais malheureusement, ce sont les... quand vous ne voulez pas changer la mentalité, vous allez changer le régime avec les personnes. Si les personnes n'ont pas une mentalité qui a changé, elles vont se comporter d'une manière sans... Voilà, quand ils seront au pouvoir. Merci Mathieu, mais dis-moi, M. Mondambali, on va vous donner la parole. Il dit ceci, c'est l'inquiétude de notre auditeur. Si déjà, à partir de la base pour les élections, on donne des touchettes, on donne des cadeaux aux gens pour être élus, comment on pourra se comporter quand on a déjà les pouvoirs? C'est une grande inquiétude aussi des autres auditeurs. Merci Mathieu de Kananga. À Boutembo, c'est Augustin. Augustin, bonjour.
Oui, bonjour Papa Pierrot, je vous félicite pour m'avoir accordé la parole.
Merci,
je suis pas précis, hein, je ne vais pas beaucoup parler, tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé.
Mm-hmm.
Mais je voulais tout simplement que nos autorités puissent prendre en conscience tout ce qui s'est passé, qu'ils puissent faire une étude rétrospective.
Mmh.
Donc, voir derrière qu'est-ce qui s'est passé maintenant, en avant, nous allons où? Parce que si nous commençons à citer ici, on peut commencer à citer le matin jusqu'au soir le détournement qui s'est passé, le problème des
réalisations
s'est passé. On dit que le linge sale se lave en famille.
Mm-hmm.
Moi, je vais accorder un problème de quoi? De prise à langue. Que nous puissions se réunir, être dans une même table pour se parler. Comment est-ce que nous pouvons progresser?
Mm-hmm.
Et deuxièmement, j'allais encore envisager un problème aussi de l'éducation, de la formation au niveau de la base, même à l'école primaire, qu'on puisse déjà parler dans cette histoire-là, que ça ne puisse pas être comme un tabou ou bien un slogan,
mm-hmm.
qu'on est en train de dire de temps en temps, tout ça, on change de multiples slogans, c'est pas bien. Il faut qu'on puisse le mettre en évoque, en pratique, pour que nous puissions aller en avant.
Voilà.
Et troisièmement,
les
sanctions, il faut sanctionner.
Mm-hmm.
Si on ne sanctionne pas, il n'y a rien de spécial qui peut se faire. Parce que, par le chef de nos autorités, il y a plusieurs nos autorités qui volent à l'issue même des populations.
Mm-hmm.
C'est trop compliqué. Comment est-ce que même les partis politiques ne prennent même pas le temps
d'éduquer leurs membres?
D'instruire leurs membres concernant la corruption, ce qui gagnerait notre pays.
Voilà,
je vais prendre un exemple qui est concret pour ne pas être trop loquace. Le parti politique Kalou. Je suis sûr que les membres de Kalou, moi je suis de cette province, bien sûr, je suis à Boutembo, ils sont trop malheureux. Ils sont vraiment en dedans, tu dis.
Oui,
mais quand vous voyez le tourment qui se passe, même à travers leurs patriotes et leurs autorités qui sont en train de l'effectuer, c'est difficile.
On
veut le dénoncer au niveau de l'Assemblée nationale, maintenant. La majorité veut toujours protéger leurs membres.
Voilà. Merci, Augustin. On ne saura citer les noms de gens, de partis, pour témoigner ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est votre constat. Et quand même, votre inquiétude, c'est que quand il y a un cas de corruption, au niveau du pouvoir politique, on protège plus les intérêts que l'intérêt de la population. Cela nous a été aussi écrit par notre ami Mandela Oscar de la province orientale à Haro. Il dit ceci, pour lui, il pense qu'il faut d'abord renforcer l'indépendance de la justice congolaise, la bonne gouvernance et l'éducation de notre peuple au civisme, rendre aussi l'économie stable, ainsi payer régulièrement les fonctionnaires de l'État pour éviter que les gens ne puissent renforcer leur économie. Et il faut aussi que la loi soit appliquée pour tous et non pas pour une catégorie de gens. Albert, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les trois pistes de solutions d'Augustin. Il pense qu'il faut l'éducation à la base, il faut aussi la lutte contre l'impunité, mais il insiste aussi sur un forum national autour de la corruption pour que les gens puissent se pencher et se dire des vérités en face. On vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez, Albert?
Oui, merci beaucoup, Pierrot. Maître, c'est presque abordé tous les points.
Mm-hmm.
Moi, j'ai dirais seulement ceci. Pour mettre fin à l'impunité, il faudrait qu'on puisse d'abord arrêter les membres du gouvernement, ceux qui touchent la part des peuples. jusque-là, depuis le début de cette législature, n'a jamais été inquiété. Et en plus de ça, j'ajouterai encore, il faudrait que le territoire soit bien partagé. Mm-hmm. Imaginez-vous, pas déjà 1% du territoire est mal payé, comment est-ce qu'on peut mettre à la production? Mm-hmm. Et j'ajouterai encore, ça c'est pas un système de bureau, il faudrait qu'on fasse une première correction de la fin des morts. Il faudrait que la peine de mort soit installée dans ces pays. C'est celui qui vole, qui détourne, on est sûr qu'il était mal. Quoi qu'il y a fait ça, on est pas fait la petite histoire.
Merci.
Et réhabiliter aussi les réparations, parce que les pas de communication.
Voilà. De plus en plus. On a un problème de ligne avec Albert de Kisangani. La qualité d'intervention se détériore, mais du moins, il dit qu'il faut sanctionner les hautes personnalités et il faudrait. Réinstaurer pour lui, il pense qu'il faut la peine de mort pour tous ceux qui détournent les biens publics, ceux qui sont accusés de corruption. Nous allons prendre Guy de Mandaga et Dieu donner des bénis, et puis on va remettre la parole à notre invité. Guy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous pensez, comme je venais de le dire, Albert de Kisangani, que si les hautes personnalités, par exemple politiques, qui sont accusées de corruption, sont punies d'une manière exemplaire, cela peut aider à combattre la corruption, ou bien il faudrait aussi développer autre chose, selon votre point de vue dans cette émission? On vous écoute.
Donc, ouais, dans cette émission, je crois que je peux être aujourd'hui avec mon prédécesseur, puisque dans ce pays, nous vivons le même appartement. Depuis qu'on a eu des constitutions et des constitutions de l'être et des lois, on a proposé de multiples lois. Mais ces lois ne sont appliquées que pour les personnes, donc pour nous les pauvres citoyens. Mais ces gens-là qui votent ces lois ou qui signent ces lois-là, ils sont exemptés. Donc la loi, ils sont au-dessus de la loi. Maintenant, la loi, c'est pour nous les petits peuples. Donc on ne doit pas évoluer comme ça. Le pays doit toujours sombrer. Et pourquoi nous voyons le pays placé parmi les pays les moins corrompus, donc ce que nous déplorons, c'est que la loi est votée pour tout citoyen.
Voilà.
Et puis, le chef de l'État qui peut signer la loi,
okay,
pour tomber dans les fractions. Il est de violer la loi.
Ok, nul n'est au-dessus de la loi.
Sinon, je serai jugé, puisque non, c'est moi, le garant suprême de la nation. J'avais signé cette loi et maintenant je suis. Dans le sujet, j'étais arrêté.
Voilà.
Si sous Congolais, vous pouvez avoir cet état de fil-là, on va évoluer. Mais si pas, en tout cas, mon frère, c'est pas des belles paroles qu'on peut passer dans la radio, même des milliers d'années.
Donc merci, Guy. Vous pensez qu'il faut le respect de la loi, que chacun mette en tête. Dieudonné, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour la radio, Francis.
Voilà, j'ai dit, en écoutant presque tous les auditeurs, on a tendance à tourner presque l'arme envers les autorités, envers ceux qui sont élevés en dignité. Vous pensez que c'est le problème de la corruption, c'est un problème tout simplement des autorités, des politiques, et eux aussi, c'est un problème aussi de la population, chacun là où il se trouve, dans sa responsabilité, dans son travail.
Donc, je pense que les prédécesseurs ont tout dit, c'est le problème des autorités. Moi, je parle d'un fait. À l'époque, donc à la Deuxième République, quand Kabila Leter était encore président, chef de l'État, on ne parlait jamais de la corruption.
Jamais.
C'était à la Troisième République, avec Kabila le fils, et cela part de la Première République du gouvernement du Zaïre, on parlait de la corruption. Mais néanmoins, dans la Deuxième République, avec Kabila Leter, on ne parlait pas de la corruption. Alors, pour moi, la proposition est simple. La corruption, étant donné qu'il est synonyme d'entrer dans un job, synonyme de ruine de l'économie nationale, synonyme de salaire du personnel de l'État aujourd'hui, surtout les enseignants qui sont en train de croupir dans la misère, c'est la corruption qui est à la source de tout ça. Alors, la proposition est simple. Moi, je voulais à quelqu'un, je pouvais dire si j'avais cette autorité, de retourner à l'époque de Kabila à l'époque où quelqu'un qui est corrompu, quelqu'un qui vole la caisse de l'État, est mis à l'écart. Mettre à l'écart ne signifie pas mettre en prison.
Voilà, j'ai donné des bénis, on a perdu sa ligne. Il nous a appelé des bénis, c'est 92.0 MHz en province du Nord Kivu. On va redonner la parole à notre invité après quelques secondes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Monsieur Mondabali, en écoutant les auditeurs, hein, tous ils ont tendance à diriger les attaques envers les autorités, envers ceux qui sont élevés en dignité, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a l'impunité, on ne sanctionne pas. Mais au niveau de la stratégie élaborée au sein du forum, il y a un auditeur qui a proposé même le travail à la base dans les écoles, au niveau de l'éducation, ça peut être en famille, à l'école primaire, le civisme, ce qui peut aussi amener une transformation de la personnalité. Est-ce que cela est prévu dans la stratégie élaborée et adoptée que vous avez mise au gouvernement?
Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le point des capitaux essentiels qui résume la démarche de ces documents de stratégie nationale réside au niveau de l'éducation et de la sensibilisation.
Mm-hmm.
Et nous avons osé dire que la corruption n'est pas seulement l'apanage de l'affaire des autorités politiques.
Mm-hmm.
C'est l'affaire de tout le monde. C'est tout le monde qui est versé dans les pratiques de corruption. S'il est presque, je dirais, au monde du système de gestion de l'appareil étatique, on ne peut pas nier que la corruption soit le mode de vie de la société congolaise.
Mm-hmm.
Le terme COP, Mbwama, Apesa Talate, toute une terminologie s'est forgée autour de ces concepts pour légitimer la corruption.
Mm-hmm.
C'est pour vous dire qu'il ne faut pas regarder seulement du côté des autorités. Il est vrai que les autorités doivent être sanctionnées. Et nous attendons cela du chef de l'État. Il a osé, il a donné le point de départ avec l'opération Tolérance Zéro, mais nous aurions souhaité que cette opération soit relayée maintenant par des structures opérationnelles sur le terrain, des structures qui peuvent organiser périodiquement ou pas d'une manière spontanée des descentes sur le terrain de façon à pouvoir arrêter ces corrompus et corrupteurs qui sont en train de dépouiller l'État congolais, le peuple congolais surtout, de ses moyens de subsistance.
Voilà, vous allez continuer, mais quand vous parlez des actions qui doivent être menées sur le terrain, on voit de temps en temps, quand nous circulons dans les taxibus, il y a des gens qui arrêtent les chauffeurs, ils disent qu'ils sont de l'opération Tolérance Zéro, mais comment on va les aider à ne pas tomber dans les pièges de ces convois? De temps en temps, les chauffeurs se plaignent que nous, j'ai été arrêté par Tolérance Zéro parce qu'ils ont mal parqué, voilà autant d'argent qu'ils m'ont demandé. Vous voyez, en quoi on risque de tomber.
Monsieur, je vous dirais jusqu'à présent, monsieur le journaliste, avec conviction, qu'il n'y a pas encore eu des structures de tolérance zéro. L'opération a été lancée par le chef de l'État, c'est une décision prise par une autorité suprême. Maintenant, cette décision doit être coulée à travers les organes, les structures, les lois. C'est comme ça que nous sommes en train de revoir la loi anticorruption, 05/06, pour pouvoir lui donner plus de teneur dans la lutte contre la corruption.
Mm-hmm.
C'est pour vous dire qu'il y aura des structures. Il y aura deux agences, une agence de lutte contre la corruption, une agence gouvernementale, et ensuite, il y aura la commission indépendante de l'éthique et de lutte contre la corruption.
Mm-hmm.
Il faut que ces structures fonctionnent. Et ici, je mets en garde la population contre ces gens qui récupèrent ces concepts en le déviant de son objectif principal. Il y a d'autres maintenant qui exploitent le terme et le concept de tolérance zéro pour faire peur à la population, pour dire attention, vous savez, tolérance zéro qui m'a autorisé, il arrête arbitrairement quelqu'un, alors qu'il est quelqu'un qui était dans ses droits, tout simplement au nom d'une opération de tolérance zéro déviée.
Mm-hmm.
Là, nous attirons l'attention de la population là-dessus. Alors, revenons un peu aux préoccupations de notre auditeur Mathieu de Kananga, qui a dit qu'il faut changer le régime pour mettre fin à la corruption. Je vais dire à M. Mathieu de Kananga que la corruption est un phénomène transfrontalier. C'est un phénomène qui n'est pas propre à la RDC.
Non.
C'est une pratique qui est chez nous, nous devons la combattre, mais ce n'est pas en croyant qu'il faut changer les têtes des hommes que vous allez améliorer le phénomène de lutte contre la corruption. Je crois que la solution se trouve ailleurs. Ça trouve d'abord entre les mains de M. Mathieu. S'il se permet de dénoncer les actes de corruption auprès des services spécialisés que nous sommes, l'OCP, le ministère de la Justice, je ne vois pas quel serait le volet négatif de cette dénonciation. Puisque nous, on accuse les gens pour des pratiques de corruption au niveau de l'OCEP, au niveau de l'administration, et nous prenons immédiatement des sanctions à travers les conseils de discipline. Au niveau du ministère de la Justice, nous sommes en train maintenant de mettre sur pied ce que j'appelais la Chambre spécialisée anticorruption, qui aura le dessus dans toutes les juridictions en matière de lutte contre la corruption.
Donc là, pour vous compléter, au ministre de la Justice, on a entendu le ministre plusieurs fois, il a dit que maintenant c'est le temps de traquer les colonnes à tabac. Il y a mon auditeur qui en a parlé au début de l'émission, qui nous attendons l'effectivité de cela. Est-ce qu'on peut lier l'effectivité de la mise de la traque des colonnes à tabac à la mise en place de cette chambre?
Oui, effectivement. C'est pour ça que le ministre de la Justice en a demandé auprès du comité de pilotage, auprès de ces spécialistes qui font la réforme. Ils vont absolument qu'il y ait des instruments juridiques qui nous permettent d'engager un combat sans faille contre la corruption.
Mmh.
Alors, au sujet des élections, il y a eu la corruption au moment des élections.
Karim fait partie de la campagne.
On donne des t-shirts et des sacs de riz. Ici, j'aimerais bien tranquilliser M. Mathieu en disant ceci. Dans tous les pays du monde, il y a la période qu'on appelle la période de campagne électorale. Au cours de cette campagne électorale, il est permis aux gens qui sont à la quête du pouvoir, aux gens des partis politiques, d'offrir de petits cadeaux à leurs adhérents, à leurs membres, d'attirer également certains membres qui résistent devant leur programme. C'est autorisé, mais seulement dans des pays développés, on met le mécanisme de contrôle. C'est-à-dire, on crée ce qu'on appelle la loi sur le financement des partis politiques.
Mmh.
Dans une campagne quelconque, vous y engagez, vous ne pouvez pas dépasser X montant pour donner à vos adhérents ou à vos fanatiques. Je prends l'exemple de la campagne présidentielle organisée aux États-Unis. Vous avez vu le président Obama, Barack Obama, il a refusé de bénéficier du financement de l'État. Il a préféré tout simplement battre campagne avec ses propres moyens, c'est-à-dire en acceptant les dons de ses admirateurs, de manière à ce qu'ils ne soient pas limités par les plafonds du gouvernement. Tandis que son challenger, lui, avait par contre accepté d'utiliser seulement les fonds du gouvernement. La conséquence était que le challenger a perdu. Alors, il y a la loi sur le financement des partis qui dit que vous ne pouvez pas dépasser tel et tel de montant. Mais sinon, les politiciens sont libres de venir aujourd'hui vous chercher ou envie d'avoir un poste ou d'être élu député et vous proposer une maison. C'est autorisé par la campagne, ce n'est pas de la corruption. Et nous avons un module même là-dessus qui dit quelles sont les limites de la corruption dans le champ politique. Il faut savoir situer ces limites.
Voilà. Et il y a honorable Odian Bansoussa qui nous appelle de Londres, je crois, et Chabret qui est à Kananga. Nous allons leur donner la parole. Honorable Odian, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Vous nous appelez de Londres, c'est en Angleterre. Nous parlons de la corruption, de ce qu'il faut faire, parce qu'on tend déjà vers la dernière partie de l'émission. Voilà, nous avons trois personnes différentes en ligne. Honorable Odian, vous êtes en province orientale, je crois que c'est ça.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, c'est Bankoussa qui nous appelle de Londres. Merci à la réalisation. Vous êtes député provincial, je crois bien. Et en tant que député provincial, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour aider efficacement à lutter contre la corruption, eu égard à tout ce qui a été dit par M. Mwendambali, les autres auditeurs, et ce que peut faire vous en tant qu'homme politique?
Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'au Congo, nous sommes habitués à créer des structures, à multiplier des structures avec l'idée que toutes ces structures vont bien fonctionner. Mais en créant des structures, le combat, le vrai combat ne réside pas dans nos têtes. C'est tout simplement des folklores pour dire au monde que non, nous sommes en train de lutter réellement contre la corruption. Parce que la corruption à l'RDC, c'est une histoire institutionnalisée où tout le monde voit la corruption. Tout le monde voit que non, ici, il y a la corruption. Mais comme le motif même de la corruption, ce sont des politiciens, des hommes qui occupent des rangs importants dans la gestion de la chose publique. On n'ose pas sanctionner ces gens-là. Et le gouvernement, le parlement et le cours des tribunaux qui sont là, des institutions reconnues par l'État, qui devraient apprécier que lutter contre toutes ces pratiques qui nous mettent à genoux, mais toutes ces structures ne luttent pas. On laisse le cours des tribunaux ne pas faire son travail pour créer une autre structure, et cette structure qu'on crée, qui n'a même pas d'efficacité, qui n'a pas de financement, qui n'a pas de moyens, ne va pas lutter, combattre ce fléau. Mais le vrai problème, on devrait laisser le cours des tribunaux faire leur travail. Et on devrait, en principe, laisser le Parlement travailler convenablement. Mais ici, à l'air de laisser le Parlement ne joue pas le rôle de contrepoids. Le Parlement ne peut même pas sanctionner si on dit que notre tel ministre a pratiqué donc la corruption, tel ministre est corruptible, ou tel gouverneur, ou telle autorité est dans cette manœuvre de d'ingénuer davantage la République. On ne veut pas qu'on sanctionne ces gens-là. Le Parlement s'attend avec les membres du gouvernement pour que ces gens travaillent dans cette pratique-là que vous connaissez très bien, pour de mettre côté la population. Et je suis d'accord avec un auditeur qui vient de dire qu'il faut qu'on supprime cette histoire de distribuer des tichettes, de distribuer de vivres lors des campagnes électorales. Parce qu'on a fait de corrompre les gens d'une façon indirecte. Et puis tout ce qu'on est en train de ramasser de gauche à droite, on utilise ça pour la campagne électorale parce que la population elle-même, comme elle n'a pas de moyens, bon, lorsqu'on va amener tous ces moyens, la population va certainement voter pour ces gens-là, alors que ce sont ces gens qui acceptent la corruption tous les jours.
Monsieur
Odian, ne veut pas que les choses aillent de l'avant.
Monsieur Odian, on vous suit. On
construit le pays de cette manière.
Voilà, Monsieur Odian, on vous suit. Vous êtes député, vous vous plaignez que ça ne marche pas. Ça dit que le problème pour vous, pour terminer avec vous, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, pour terminer avec vous, ce qui veut dire, selon vos propos, c'est qu'il y a absence de la véritable volonté politique pour lutter efficacement contre la corruption. En bref, c'est ça.
Malgré tout ce qu'on est en train de dire, on est sûr et certain qu'il n'y a aucune volonté politique pour lutter contre la corruption. Parce que ceux qui sont dans cette pratique, ce sont plus les hommes politiques. Et personne n'ose les sanctionner. Même si on sait que notre telle personne pratique la corruption, si vous osez les dénoncer, vous devenez automatiquement ennemi.
Voilà,
on vous combat à mort et on cherche à vous lapider.
Merci beaucoup, monsieur Odjane, parce qu'on va vraiment terminer l'émission. On a deux personnes en ligne. Bankusa de Londres, bonjour. Et monsieur Bankusa, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment, on a perdu la ligne de l'extérieur du pays. On rentre ici au pays, au centre, bien sûr. Et Chabrak, vous êtes à Kanaga. Vous êtes en ligne, Chabrak, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, et on vous écoute. Vous êtes les derniers auditeurs. Votre proposition, selon ce que M. Odan disait, pour lui, c'est un problème de volonté politique. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la volonté politique, tout ce qu'on peut créer comme structure, tout ce qu'on peut faire comme activité pour lutter contre la corruption, cela ne peut pas être sûr. On vous écoute.
Oui, la question politique, que moi, je présentais,
voilà. Et là, apparemment, c'est difficile aussi avec Chabrak de Kananga. On revient à vous, monsieur Mindambali. Le problème, comme venait de le dire monsieur Odiani de la province orientale, c'est un véritable problème. Nous avons tellement beaucoup de lois, nous avons beaucoup de structures. On a vu dernièrement, quand on a parlé de l'amélioration des climats des affaires, il y a eu une société qui a été créée pour le comité pour l'amélioration des climats des affaires. Ça veut dire qu'on peut créer autant de structures, mais si, au fond, on ne veut pas les mettre en pratique, donner des moyens, avoir la volonté effectivement de faire vivre ces structures et mettre en pratique ces lois, nous risquons encore de nous retrouver demain qu'on se plaigne que les mêmes structures sont oubliées aussi comme les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire efficacement cette fois-ci pour permettre en fait que ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre en place puisse enfin travailler et être utile au pays, à la population congolaise d'une manière globale?
J'aimerais d'abord tranquilliser monsieur Odiane, l'honorable Odiane qui a parlé des structures à créer, les secours de tribunaux, les rôles de jouer, disons d'évoluer dans leur classique rôle de répression. Je dis, on n'a pas du tout l'impression, même dans le document qu'on a présenté, de créer de nouvelles structures. Il s'agit d'une cour, il s'agit d'une chambre spécialisée anticorruption qui va bénéficier de la formation. Les magistrats seront formés en matière de lutte contre la corruption. Le même magistrat qui sont dans les cours des tribunaux, c'est le même magistrat, après leur formation, qui sont affectés à la chambre ou à la juridiction spécialisée en matière de lutte contre la corruption. Alors, quand on parle beaucoup de la volonté politique pour lutter contre la corruption, moi, j'aimerais être plus pratique. Je me réfère aux 8 éléments fondamentaux de la politique d'intégrité de l'OCDE. Pour apprécier le niveau d'engagement d'un gouvernement, d'un État dans la lutte contre la corruption, il faut voir, 1, s'il y a le souci de la hiérarchie de lutter contre la corruption. Le président de la République a déclenché l'opération Tolérance Zéro. Nous avons été dans les prisons vérifier plus de 300 prisonniers pour faits de corruption IET et nous avons diffusé les images sur les antennes de mon télévision nationale. Il y a l'existence d'un code de conduite efficace qui puisse encadrer les agents publics de l'État dans leur rôle de personnes qui servent les usagers des services publics de l'État. Mmh. Le code de conduite de l'agent public de l'État a été promulgué par le chef de l'État et j'en suis d'ailleurs le vulgarisateur au nom de l'Observatoire du code d'éthique professionnelle.
Mmh.
Il faut élaborer un cadre juridique efficace. Nous sommes dans les processus de réforme de l'appareil judiciaire, ça vous le savez très bien, il y aura des innovations à la matière. Alors, il faut également l'intervention de la société civile, les syndicats, le monde des affaires dans les combats contre la corruption. Nous avons réalisé le forum avec la participation de ces différents acteurs.
Voilà.
Alors ici, je reviendrai au rôle que peuvent jouer les parlementaires en matière de lutte contre la corruption. Je me réjouis que ce soit un honorable qui me pose la question, puisque au niveau du Parlement, il n'y a pas même une chambre de chute en matière de lutte contre la corruption. Or, au Sénat, il y a même une sous-commission qu'on appelle commission de bonne gouvernance et lutte contre la corruption.
On a
nous aurions souhaité effectivement qu'au Parlement, qui est quand même une caisse de résonance, une boîte qui reçoit toutes les plaintes en matière de lutte contre la corruption qui sont adressées par les organes spécialisés, de manière à ce que, quand il y a des interpellations en matière de lutte contre la corruption, les questions soient bien outillées, soient bien enrichies.
Voilà. Vous étiez sur le quatrième ou cinquième élément.
Alors moi, je dis la volonté politique,
il est.
Le forum qu'on vient de tenir, réunit à 450 délégués, offre suffisamment l'épreuve de cette volonté politique. Le lancement de l'opération Tolérance Zéro, nous avons vu des parlementaires, pas des parlementaires, des mandataires en prison, des agents de l'État prévoqués, des agents de l'État mise à la retraite pour des comportements qui ne n'ont pas, déjà cette volonté politique est en train d'exprimer, et la dernière pointe, ou le point de chute de cette volonté politique, c'est le fait que le président de la République ait accepté qu'on convoque un forum national réglant les problèmes de corruption. J'ai attendu un auditeur qui voulait qu'on convoque un deuxième forum.
Non, peut-être sa difficulté, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a un forum qui s'est tenu ici. Il est, bien à Boutembo, à Béni. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a un forum qui a été tenu.
Alors, bref, toutes les 5-4 résolutions qui ont été coulées par les participants à ces forums ont été coulées maintenant sous forme des stratégies appropriées. Et je vous dis, il y a 4 piliers pour cette stratégie.
Rapidement,
Premier pilier, c'est-à-dire le point zéro. Le point de chute et d'élévation, c'est le président de la République. Ça, sa volonté, ça, son implication personnelle, le combat contre la corruption ne veut pas trouver son issue. Deuxième pilier, il faut travailler au niveau de la prévention. Il y a déjà le service de prévention, le CEP a engagé le code de conduite de l'agent public de l'État. Troisième, il y a détection, investigation. Et quatrième, il y a la répression qui va se faire à travers la chaîne pénale anticorruption.
Merci beaucoup, monsieur Mouindambali. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordinateur du comité de pilotage pour le suivi de la mise en application du code de la lutte contre la corruption. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Ça n'est fini aujourd'hui. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro. Vous savez que lors du dernier sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est tenu à Montreux en Suisse, la RDC a été choisie pour accueillir le 14e sommet qui aura lieu en 2012. Et nous allons en parler avec vous demain. Une seule question pour l'émission. Qu'attendez-vous d'une manière générale de la francophonie et particulièrement du sommet qui sera organisé en RDC? Soyez nombreux à réagir à pa@radiookapi.net. Merci à toute l'équipe, Cynthia Bachizi, William Mungamba, Nicolas Ndaka pour la supervision. Piero et la mairie, je vous dis merci. On se retrouve demain.
Il est 12h.